Donc nous souhaitons aujourd'hui
la bienvenue à Marianne Dujarrier, je ne sais pas si vous m'entendez, que je vais essayer de présenter en quelques mots seulement. Lui laissant le soin de présenter plus en avant tout ce dont elle aura envie de parler aujourd'hui. Mais Marianne Dujarrier est professeure de sociologie à l'Université de Paris maintenant et membre d'un laboratoire LCSP de changement social et politique et associée au LIS, qui est un laboratoire du CNAM, CNRS, mène depuis un certain nombre d'années des travaux sur les différentes métamorphoses de l'encadrement social de l'activité humaine, pour reprendre ses propres termes. Concernant la notion de travail, qui va être un peu au centre de son dernier ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle « Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée » au PUF en 2021. C'est donc une déclinaison sur ces trois manières d'envisager le travail comme activité, comme produit de cette activité ou comme emploi salarié, qu'elle a décliné dans d'autres travaux dont je mentionnerai le travail du consommateur, qui est une entrée peu habituelle, originale, dans les catégories, dans une catégorie trouble qui était celle du consommateur, mais aussi sur le management à distance, sur, dans un titre qui est le management désincarné, enquête sur les nouveaux cadres du travail, et l'idéal au travail qui est le premier titre et qui a été un travail très, très connu et très diffusé. Donc j'en ai déduit de la présentation de Marianne Dujarrier sur le site du LIS, je crois que c'était, que nous avons aujourd'hui avec nous une sociologue clinicienne. Et je vais juste en deux mots donner ce que j'entends par cela, ou ce que j'entends dans cela, une sociologie clinique ou une sociologue clinicienne, une sociologue qui s'intéresse aux signes avant-coureurs, aux symptômes, aux indices, qui peuvent nous donner des idées d'interrogation ou d'investigation. Et ça a été le cas pour le travail. Qu'appelle-t-on travail, bien sûr, c'est de cela que nous allons traiter aujourd'hui, mais aussi de quoi le travail est-il le nom. Qui travaille et qu'est-ce que le travail? Voilà le programme. Et je laisse la parole à Marianne Dujarrier pour continuer elle-même sa présentation, corriger si j'ai dit des choses imprécises et continuer avec son exposé.
Merci beaucoup Michel, je n'ai aucune correction à apporter, donc déjà ça c'est fait. Est-ce que je peux me lever parce qu'en fait je ne sais pas parler, voilà, j'ai le corps qui a besoin de bouger. Donc si ça vous va, vous m'entendez? J'ai pas besoin du micro, hein? Ouais, d'accord. Donc effectivement j'avais prévu de me présenter par politesse, mais comme Michel Debré l'a parfaitement fait, je vais passer vite là-dessus. Je voulais juste dire un petit mot quand même sur le fait que moi je suis devenue sociologue un peu sur le tard, on pourrait dire. J'ai fait ma thèse, j'ai commencé ma thèse à 35 ans, et que j'ai une expérience en fait de l'emploi salarié hors de l'université qui est intéressante peut-être à noter, parce que ça ne donne pas peut-être le même genre de sociologie, ou en tout cas de rapport à l'objet, et à l'objet travail dont je vais vous parler. Je suis effectivement responsable d'un master de sociologie clinique. Juste un mot là-dessus, c'est un courant de la sociologie qui a été fondé par Vincent de Gaulle-Jacq, je ne sais pas si vous connaissez son nom, qui a pour particularité d'essayer de comprendre les articulations entre psychique et sociale. On pourrait dire de façon très ramassée, c'est moi qui le dis, hein, Vincent le dirait peut-être d'une autre manière, mais que nous regardons les faits sociaux, nous nous intéressons à la société pour essayer de la comprendre, de l'expliquer, en postulant que les femmes et les hommes qui fabriquent cette société sont des sujets et non pas des acteurs ou des agents. Des sujets au sens foucauldien, c'est-à-dire à la fois assujettis, hein, des individus assujettis par notamment les faits sociaux, dirait Durkheim, ou par les déterminations sociales et même économiques, hein, dans une perspective un peu matérialiste, et puis en même temps des sujets au sens d'être capable de répondre de cet assujettissement, d'être auteur de sa vie. En tout cas, être des gens qui agissent en tentant de donner du sens à ce que nous faisons. Là, on entend un peu du Weber, si vous voulez. Hein. Donc, voilà, la clinique, hein, on pourrait dire, c'est une théorie de l'action, une théorie du sujet qui dépasse un peu cette dichotomie sans cesse ressassée dans les cours de sociologie où il y a les déterministes ou ceux qui pensent que nous sommes des acteurs plutôt libres. Voilà, la clinique, c'est une théorie de l'action qui entend, enfin, qui s'intéresse aux assujettissements premiers, hein, toujours, donc les assujettissements sociaux, et en même temps qui postule que nous tentons, pas solitairement, hein, dans des rapports sociaux et dans des relations sociales, d'en faire quelque chose de ces déterminations, hein, donc d'en répondre par une activité. Hein, et c'est là que le concept d'activité aussi pourrait être approfondi. Je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, ce n'est pas le but. Voilà. Donc, quelques mots. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que c'est que la socioclinique, si vous avez déjà croisé cette sociologie-là, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Ouais. On pourrait la définir de d'autres façons, hein, mais je pense que dans le cadre qui est celui-ci, on pourrait retenir cette formulation. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une recherche que j'ai publiée il y a à peine un mois, enfin si, un mois maintenant, donc qui est très récente, qui m'a beaucoup occupée. Et comme l'a très bien dit Michel Daubré, moi je suis une sociologue qui trouve aussi ces objets de recherche tout simplement en étant un sujet social qui se confronte à des faits sociaux et puis qui dit « tiens, c'est bizarre ». Et il se trouve que dans ma trajectoire, donc je suis arrivée en sociologie dans les années, tout début des années 2000, en 2000 même, et à l'époque, dominait, peut-être mes confrères et consoeurs de ma génération s'en souviennent, dominait un débat au sein de la sociologie du travail qui avait été lancé par l'idée qu'il y aurait une fin du travail, hein, qui était un livre de Rifkin en 95, et qui avait été amplifié en France par le titre du livre de Dominique Méda qui parlait aussi de fin du travail. Je ne sais plus ce que c'était exactement, mais enfin, il y avait cette idée de fin du travail. Et il y avait tout un débat, pardon. Comment ? Le travail, une valeur en voie de disparition. C'était qui est effectivement un livre sur la question de la valeur, hein, sociale du travail. Enfin, toujours est-il qu'il y avait un débat qui a été très bien ramassé d'ailleurs dans une revue du MOS qui s'intitule « Travailler est-il bien naturel ?» où on voit les différents arguments qu'il y avait pour savoir si on en a fini ou pas avec le travail. Alors évidemment, ce débat était très très vif. Il a continué de l'être en fait assez longtemps. Moi, je suis arrivée après ce débat. Et il m'a un peu interloquée en me disant mais de quoi parle-t-il en fait ? Est-ce qu'on parle de la fin de l'emploi ? Donc qui est une vieille préoccupation en fait, qui est une préoccupation qui est de dire est-ce que les machines vont remplacer le travail humain ? Qui pose la question d'ailleurs savoir si les machines travaillent elles-mêmes. Ou est-ce qu'on parle de la fin de l'activité ? Ou est-ce qu'on parle de quoi parle-t-on en fait ? Parce que ceux qui défendaient la centralité, et ce qu'ils défendent toujours d'ailleurs, la centralité du travail, que je fréquente également, eux parlent en fait de l'activité. Quand ils parlent de centralité du travail, ils disent non mais c'est extrêmement important le fait de faire. Faire, agir sur le monde, c'est se transformer soi-même et on y joue des éléments extrêmement importants comme la santé, le lien social et même la dimension politique, hein, puisque c'est dans l'action qu'on renormalise, qu'on transforme les normes sociales, qu'on transforme les règles sociales. Donc vous avez tout un courant comme ça, des courants qui défendent la centralité du travail, en parlant en fait plutôt de l'activité. Et d'autres qui disent c'est la fin de l'emploi. Enfin bref, tout ça me paraissait pas très clair, ça ne l'était pas. Et alors, je me suis demandé, enfin, c'était une vieille préoccupation. Je vous raconte un peu ma vie, parce que c'est aussi comme ça que les objets viennent aux sociologues, hein, comment, dans nos propres trajectoires sociales, on rencontre des problématiques. Et puis, une autre, Michel Debray a parlé d'un livre que j'avais publié en 2008, qui s'appelait « Le travail du consommateur », hein, qui faisait l'hypothèse que de plus en plus, les consommateurs et consommatrices réalisent une partie de la production qu'ils et elles achètent. Que ce soit dans avec le self-scanning ou dans les gares et les aéroports où on fait une partie du billet, hein, mais aussi sur Internet, à l'inverse, à l'inverse au sens où c'est beaucoup plus volontairement, les entreprises captent des productions et des données qui ont une valeur marchande pour elles. Et en fait, quand j'ai publié ça, il y a des collègues qui, plus ou moins aimablement, m'ont dit « Mais t'as pas le droit de parler de travail. T'as pas le droit de parler de travail. C'est pas du travail. » Alors je me suis dit « C'est une bonne question. En fait, ça, tout dépend ce qu'on appelle travail, en fait. » Alors moi, j'avais donné une définition conventionnelle dans ce livre. Mais au fond, cette remarque était juste... Enfin, en tout cas, m'a amenée à dire « Mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle travail ?» Et la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui tente de répondre à cette question, avec l'idée que c'est un mot quand même absolument ubiquitaire, hein, c'est-à-dire qu'on entend partout dans la société. Qu'est-ce que donc que le travail ? J'ai mis cette petite blague parce qu'elle exprime parfaitement en fait la problématique. Parfois, un bon dessin vaut mieux qu'une grande explication, n'est-ce pas, hein ? On ne trouve plus de travail en France, et lui répond : formidable, ça prouve que le travail à faire est fini. On voit bien ici qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Alors, pour commencer, on peut se demander, est-ce que là, vous travaillez ? Qui travaille, là, cet après-midi ?
Moi.
Michel ? Vous êtes deux, trois ? Les autres, vous ne travaillez pas ? Est-ce que vous hésitez à répondre ? Qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Plus exactement, sur quels critères pourrait-on dire que l'un travaille et pas l'autre ? C'est le fait d'être payé ? Ouais. Donc ça veut dire que quand on gagne de l'argent, on travaille ? Par exemple, un rentier travaille ?
Non, il y a aussi le facteur plaisir. Il y a ce qu'on appelle le travail libre. C'est-à-dire, si je prends du plaisir, alors c'est pas pénible, alors est-ce que c'est
là, ouais. Le travail, c'est que quand c'est pénible ? Donc il se pourrait par exemple qu'au début vous ne travaillez pas, puis à la fin de l'exposé, quand vous êtes fatigué, vous serez... Je ne sais pas. Est-ce que travail égale souffrance ? Est-ce que travail égale rémunération ? En fait, vous voyez, là on est en train de chercher un critère qui pourrait dire là c'est du travail parce qu'il y a ce critère-là. Mais est-ce qu'on peut le trouver, ce critère ? Est-ce qu'un youtubeur travaille ? Est-ce qu'un stagiaire travaille ? Est-ce qu'une abeille travaille ? Est-ce que le bois travaille ? Est-ce que l'argent travaille ?
Je pense que le point commun, c'est la production, parce que nous, là, on est en train de travailler, mais si on produit, c'est qu'on produit. Et une personne qui en travaille, parce que c'est un peu de...
Donc, quand il y a production, il y a travail pour vous. Donc, par exemple, un salarié qui a un emploi fictif et qui est rémunéré ne travaille pas. Ou quelqu'un qui produirait quelque chose qui détruit la planète, par exemple, ne travaille pas.
C'est ça.
Eh bien, c'est ces questions sur lesquelles je vais essayer de vous embarquer, hein, pour essayer de comprendre ce que nous appelons travail dans notre société. En fait, est-ce qu'on peut se mettre d'accord ? Je ne sais pas, votre génération, évidemment, peut-être vous avez un autre point de vue, mais il me semble que notre société utilise beaucoup le mot travail. C'est un mot absolument central dans nos échanges. Alors, on va le voir avec la campagne présidentielle. Vous allez voir que ce mot-là va revenir en permanence dans les discours, mais aussi dans nos échanges quotidiens. Je suis à peu près persuadée que vous, comme moi, à votre âge, on vous dit « Et toi, tu veux faire quoi plus tard ?» La réponse n'est pas jouer de la guitare avec des copains. Hein. La réponse, c'est « Quel emploi est-ce que vous voulez avoir ?» ou « Quelle profession vous voulez avoir ? » ?»« Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» La réponse aussi attendue est plutôt du côté du travail. Avec ces petits exemples, on voit que le travail est absolument central dans nos trajectoires. Donc ça intéresse évidemment les sociologues, mais même au sens existentiel du terme. Et central dans l'organisation de notre société, où le travail prend une place centrale. En fait, savoir si quelque chose est du travail ou pas comporte plein d'enjeux. Prenons l'exemple des youtubeurs. Vous allez voir les enjeux. Il s'est trouvé que un jour, j'avais fait une conférence dans un ministère qui avait un chargé de com qui tweetait au fur et à mesure ce que disaient les intervenants. Et à un moment, je posais cette question, je dis, est-ce qu'un youtubeur travaille ? Et le chargé de com, qui devait être un stagiaire, a tweeté, Marianne Dujarrier dit que les youtubeurs ne travaillent pas. Et alors là, il y a eu un incendie sur Twitter de youtubeurs qui ont commencé par m'insulter copieusement. Et en fait, il y a eu plus de... Enfin, exploitable, il y avait quelque chose comme 1500 tweets. Donc, c'est des petits textes, mais très, très resserrés. Et je les ai regardés, je les ai lus en sociologue, ça m'a intéressé. Et alors, voilà le résultat. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui fait une vidéo avec son propre matériel, avec ses compétences, son temps, éventuellement d'ailleurs d'autres, des connaissances, hein, des proches, qui poste ça bénévolement sur une plateforme numérique, qui... après avoir mis en scène cette vidéo et autres apports autour de la vidéo, gagne énormément d'argent, est-ce que c'est du travail ? Qui pense que c'est du travail d'être youtubeur ? Est-ce qu'un youtubeur travaille ? Okay. Alors ça, c'est le premier réflexe des youtubeurs, vous êtes nombreux, hein, comme eux, à dire, bah, évidemment que c'est un travail imbécile, parce que, imbécile, c'est parce qu'ils m'ont... Il y a eu plein de mots comme ça. Hein. Évidemment qu'on travaille, puisqu'on scénarise, on tourne, on fait le montage, on fait plein de choses. Donc là... Premier argument, c'est on fait des choses, donc c'est du travail. Et on fait des choses qui sont reconnues par l'État, puisqu'on paye des impôts sur l'argent quand on en gagne, sur l'argent qu'on peut faire là-dessus quand on en gagne, ce qui est très rare, vous le savez. Alors, en même temps, là je vous fais des résumés, hein, c'est des extraits, mais donc au début, effectivement, les tweets disent « Évidemment, vous êtes complètement idiote, ma pauvre Marianne Dujarrier, évidemment qu'un youtubeur travaille, puisqu'on fait des trucs ». Et puis, petit à petit, il y en a un qui dit « Oui, mais on fait des trucs, mais en même temps, vidéaste, c'est une forme de travail comme une autre qui, certes, ne crée pas de richesse. » Tiens, tout d'un coup, un nouveau critère. « Et ne met pas en valeur le capital. » Ce qui est faux, par ailleurs, hein, parce que le capital de Google est largement fécondé par ces vidéos. Et puis, petit à petit, dans le débat, il y en a un qui dit « Mais en fait, peut-être qu'elle pose une bonne question, la sociologue, là. » Est-ce que j'ai travaillé ou pas en offrant gratos 37 vidéos à des entrepreneurs ? Et alors, l'autre lui répond, ben non, même s'il ne peut pas en vivre, ça reste du boulot, même si ce n'est pas son job à proprement parler. Donc là, on commence à avoir des phrases un petit peu compliquées, vous voyez ? Hein, c'est du travail, mais ce n'est pas du travail. Je vous laisse lire. Et effectivement, se pose la question de savoir si c'est reconnu par l'État ou par les institutions comme du travail. Et là, ils disent, ben, on paye des impôts, mais en fait... on ne cotise pas aux URSSAF, on n'est pas reconnu comme travailleur, ce qu'on produit n'est pas compté dans le PIB, on n'est pas dans les statistiques du travail, il n'y a pas de diplôme pour devenir... Bref, ils commencent à faire le tour un peu institutionnel de la question, et là, ils s'aperçoivent que non, en fait, ils ne sont pas reconnus comme des travailleurs. Et alors, bon, bref, je vous synthétise les 1500 tweets. Vous voyez, le débat continue entre eux, comme ça, ça devient un débat intéressant, en fait, parce qu'ils se demandent eux-mêmes, finalement, s'ils travaillent. Et il y en a un qui, à la fin, qui synthétise ça parfaitement. Un youtubeur, ce n'est pas un travail à proprement parler. Ça demande du travail, mais ça n'est pas vraiment. On voit bien que ce n'est pas très clair. Et en effet, ce n'est pas très clair. En fait, beaucoup de pratiques numériques posent cette question-là. Vous, si jamais vous revendez des vêtements sur un site que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de la publicité, vous vendez des vêtements sur un site, ou un vêtement, ou une armoire, ou ce que vous voulez, et vous gagnez de l'argent. Peut-être même, substantiellement, pas mal d'argent. Vous travaillez ? Vous travaillez au point de vous signaler comme travailleuse ou travailleur ? J'ai pas l'impression. À partir de quand, finalement, travaille-t-on sur ces plateformes numériques, lorsqu'on y gagne de l'argent ? Parce que c'est du boulot, hein, quand même, de vendre ses vêtements, mine de rien. Faut les préparer, faut les photographier, faut faire un petit travail de vendeur en fait. Faut répondre, faut être là, faut encaisser, faut pas se faire arnaquer. On fait pas rien. Hein. Donc il y a de l'activité, il y a de l'échange, il y a de l'échange monétaire. Voilà. Est-ce que c'est du travail ? Est-ce que c'est du travail au point où les institutions du travail devraient s'occuper de vous quand vous revendez un t-shirt sur un site internet ? Vous voyez les questions que ça pose. C'est-à-dire que nommer quelque chose travail. Immédiatement, puisque nous sommes dans une société où les institutions du travail sont centrales, interroge ces institutions. Est-ce qu'on doit faire rentrer dans le droit du travail la vente de vêtements sur Internet ? Si c'est du travail, bah oui. Mais si c'est pas du travail, alors quel est le statut de cet argent ? quel est le statut de la personne qui fait ça? Vous comprenez les questions que ça soulève? Donc, qu'on soit youtubeur ou, dans d'autres cas, se pose la question de savoir qui travaille. D'ailleurs, les youtubeurs, dans les tweets, ils disent « En tout cas, on travaille plus que le ministère du Travail qui n'arrive pas à résorber le chômage. » Donc là, qu'est-ce qu'on a comme critère? On a ce que vous suggériez, la production, l'utilité sociale. Ou quand un youtubeur dit « Les fonctionnaires ne travaillent pas », c'est une phrase qu'on peut entendre. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne font rien ou qu'ils produisent des choses qu'un youtubeur ne valorise pas? Et ils posent plein de questions. Ils disent « Est-ce qu'un étudiant travaille ?» Question que je vous ai adressée. « Est-ce qu'un rentier travaille ?» Question qu'on a déjà abordée. « Est-ce qu'un chercheur d'emploi travaille ? » »« Est-ce qu'un bénévole du Reste du cœur travaille ? » »« Est-ce qu'un blogueur travaille ?» Est-ce que vous percevez l'intérêt de poser la question? C'est-à-dire de savoir à quel moment quelqu'un travaille. Il y a évidemment un enjeu de reconnaissance. Mais au-delà de la reconnaissance symbolique, il y a aussi peut-être la reconnaissance matérielle et surtout statutaire. Et puis en France, comme on le sait, notre système de solidarité nationale est largement adossé au salariat. Salariat qui est la forme dominante de l'emploi en France. Donc si on dit que, par exemple, les étudiants, les youtubeurs ou les bénévoles de Resto du Cœur travaillent, peut-être aussi que ça interroge leur participation à ce système de solidarité adossé au travail, justement. Vous voyez les questions que ça peut immédiatement soulever du côté des institutions, hein, qui est la question qui intéresse particulièrement les sociologues, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette problématique ou est-ce qu'il y a un oui-mais ou... Ça va à peu près? Je sais que c'est l'heure de la sieste, donc c'est pas facile. Mais... Alors, peut-être déjà écartons une fausse piste. Hein, très souvent, on peut lire même dans les dictionnaires que travail vient de tripalium, trois pieux, instrument de torture. Alors en fait, encore une fois, moi je ne suis pas spécialiste d'étymologie, je vous raconte ce que j'ai lu auprès des spécialistes. Cette étymologie est contestée pour au moins trois raisons. D'abord, elle n'est citée qu'une seule fois au VIe siècle dans un concile d'Auxerre, donc ça ne fait pas une source très très fiable. Deuxièmement, comme le remarquent les étymologistes, on dit comment est-ce qu'on passe de tripalium à travail, enfin il n'y a quand même pas beaucoup de lettres communes en fait. Et surtout, en fait, on voit surgir cette hypothèse étymologique plutôt à l'époque contemporaine, 19e, 20e siècle. Elle est très peu citée avant, voire pas du tout. Donc on pourrait dire que c'est en fait le discours que les contemporains du travail industriel et salarié se mettent à inventer sur une étymologie. Il faut toujours historiciser les discours sur le passé, hein. On s'est mis à dire que le travail était torture au 19e siècle, avait pour étymologie la torture au 19e siècle. Mais en fait, ce n'est pas une étymologie qu'on trouve citée avant dans les dictionnaires. En fait, il y aurait deux hypothèses, encore une fois d'après les spécialistes, deux hypothèses beaucoup plus probables sur l'étymologie du mot travail. La première, c'est le traps. Traps, ça veut dire poutre. Et en effet, les poutres étaient, enfin, un assemblage de poutres peut constituer ce qu'on appelle un travail. On dit d'ailleurs alors des travail, avec un S à travail, qui était en fait, je l'ai mis là-haut, un outil tout à fait banal pour un maréchal ferrant qui l'aide à contenir un cheval ou une vache quand il s'en occupe, hein, pour contenir les grands animaux. Donc vous voyez, c'est fait avec des trappes, avec des poutres, hein, et ça s'appelle un travail, ça. Donc ça serait une première hypothèse, hein, travail viendrait de trappes. Et puis, autre origine latine qui est citée, qui serait plutôt trans, qu'on retrouve d'ailleurs, c'est le tra de travel, hein, dans voyage en anglais, et qui est l'idée d'avancer en surmontant des obstacles. Exemple, donné à chaque fois depuis le XIe siècle, exemple, accoucher. Travail d'accouchement. Donc c'est vraiment l'idée d'avancer, hein, de tension qui se dirige vers un but et qui rencontre une résistance, et c'est le fait de dépasser cette résistance. Alors cette dernière hypothèse étymologique, en fait, est très très proche du premier usage qui a été fait en français du mot travail. Mais avant ça, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour faire un peu de sociologie avec vous. Vous êtes tous apprentis sociologues, je crois. C'est de vous dire qu'ici, je ne vais pas vous faire une histoire des idées, parce que ça a déjà été fait, et ça a déjà été très très bien fait d'ailleurs, par des collègues. Par exemple, Dominique Méda, que j'ai déjà cité, mais aussi François Vatin, Lavial, Jung. Enfin, il y a beaucoup maintenant, on dispose d'une belle littérature qui a repéré dans l'histoire des idées, notamment de la philosophie, de l'économie, et puis dans les différentes disciplines, les usages et les définitions qui ont été faites du mot « travail ». Donc, je vous conseille de lire ces livres, ils sont passionnants. Mais voyez bien, dans ce cas-là, quand on est dans l'histoire des idées, c'est le travail vu par, j'allais dire, des intellectuels, qui sont tous des hommes, plutôt de classe supérieure, de Aristote jusqu'à, j'allais dire, Hannah Arendt, qui n'est pas un homme, mais jusqu'à, je ne sais pas, Dominique Méda, en passant par Adam Smith, en passant par Marx, etc. Donc, la conception qu'un auteur économiste, philosophe, sociologue ou autre a du travail dit essentiellement la conception que cette personne a du travail. Elle ne dit rien de la conception sociale du travail. Enfin, elle ne dit rien. Ces femmes et ces hommes sont de leur société, mais il peut y avoir un écart abyssal entre ce que, par exemple, Hegel dit du travail, qui est extrêmement élogieux, et les conditions de travail à la même époque dans son pays, où on peut deviner que les femmes et les hommes qui vivaient ces conditions de travail n'avaient pas le discours aussi élogieux que ça sur le travail. Donc il peut y avoir des écarts très importants entre ce que dit un philosophe, un économiste ou autre à son époque, et ce qu'en diraient les femmes et les hommes qui, à la même époque, travaillent. Quand on est sociologue, on s'intéresse plutôt, l'histoire des idées est passionnante, mais on s'intéresse plutôt aux catégories de pensée. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette expression « catégories de pensée », qui sont aussi des catégories de la pratique. On vous en a déjà parlé ? Non ? Alors, ce qu'on appelle en sociologie « catégories de pensée », c'est une expression durkheimienne, c'est Durkheim et Mauss aussi, beaucoup qui avaient travaillé avec lui là-dessus. C'est cette idée toute simple que les mots que nous utilisons ne sont ni purement subjectifs, c'est-à-dire où chacun aurait sa propre définition. « Oh, pour moi, le travail, c'est ça. Et pour toi ?» Non. Si c'est ça, on ne s'entend plus. Et ces définitions ne sont pas non plus universelles. On sait bien que le travail, par exemple, c'est un mot qui n'est pas universel. Vous ne le retrouvez pas dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Les historiens, les anthropologues l'ont bien montré. Donc, quand un mot n'a une définition ni strictement subjective, « pour moi », ça veut dire que ni strictement universelle, qui renverrait peut-être à une substance, à quelque chose qui existe substantiellement. Eh bien, si c'est nini, c'est que c'est une expression sociale, c'est-à-dire construite socialement. On va dire que c'est une forme d'accord tacite entre les personnes d'une société pour dire, bon, on va s'entendre, en gros, travail, ça veut dire ça. Comme dit Durkheim, ça exprime l'état d'une société. C'est-à-dire que les mots dont nous avons besoin pour agir, pour penser, surgissent parce que des problèmes spécifiques naissent dans une société donnée. Ce qui fait que le vocabulaire peut être très très charnu, très varié sur certains sujets et très pauvre sur d'autres. Ça exprime bien l'état d'une société. Donc si on est dans cette lignée durkheimienne, je fais référence ici à l'introduction des formes élémentaires de la vie religieuse, c'est un très beau texte, si vous voulez le lire, c'est important. Eh bien, alors, si on a ce regard sociologique sur les mots, on se dit, en fait, les mots, ce ne sont pas que des mots, ce sont des catégories de la pensée et de la pratique qui ont été construites historiquement, qui nous équipent pour penser, et que l'on peut regarder comme telles. Et à ce moment-là, on va regarder non pas simplement les usages scientifiques du mot « travail », mais les usages aussi sociaux, ordinaires, vernaculaires. Comme l'a très bien souligné aussi Bourdieu plus tard, pour qu'une catégorie de pensée s'impose et surtout persiste, il faut que les institutions, et notamment l'État, renforcent les usages de cette catégorie. Il y a un très bel article, si vous voulez le lire, de Bourdieu de 93 sur la catégorie de pensée famille. Qu'est-ce qu'une famille ? Vous voyez bien que ce n'est pas purement subjectif, ce n'est pas universel du tout non plus, parce que vous savez à quel point le périmètre d'une famille peut varier selon les sociétés. Et qu'est-ce qu'une famille ? Si vous étiez à l'INSEE demain, on vous dit comptez le nombre de familles qu'il y a en France. Une personne seule, c'est une famille ? Un couple, c'est une famille ? Une femme seule avec des enfants, c'est une famille ? Une famille recomposée, c'est une famille ? Est-ce que dans la famille, il y a les aïeux ? Est-ce que les enfants adoptés sont dans la famille ? Vous voyez, toutes les conventions qu'il y a autour du mot « famille ». Conventions qui, évidemment, sont toutes historiques et expriment un état de la société. Eh bien, c'est pareil avec le mot travail. C'est-à-dire que c'est une catégorie de pensée qu'effectivement les statisticiens reprennent. Hein. Quand on dit qu'il y a tant de travailleurs en France, vous croyez que ça compte, par exemple, les tâches domestiques? Ce qu'on appelle le travail domestique? Non. Pourtant, on parle de travail domestique. Hein. Ça ne compte pas les youtubeurs non plus. Donc, vous voyez, c'était ces conventions sociales autour de ce que signifie un mot, que nous, sociologues, on aime bien repérer, parce que d'abord, c'est un outil de travail pour nous, ça nous permet de voir un état de la société, puisque ces mots expriment un état de la société. Et puis, ça nous permet aussi de voir les conventions, et peut-être de repenser les conventions, et de voir à quel point elles sont travaillées elles-mêmes, si je puis dire, par les faits sociaux. Est-ce qu'il y a des... Alors, comment est-ce que l'État, aujourd'hui, entretient la catégorie de pensée-travail? C'est notamment parce que beaucoup d'institutions portent ce nom-là. Je ne parle pas que du ministère du Travail, du Bureau international du Travail, des médecins du travail, des inspecteurs du travail, beaucoup, beaucoup de métiers du travail, et puis surtout l'institution centrale, le droit du travail. De la même manière que la catégorie de pensée famille est maintenue par l'État civil, qui, quand vous vous mariez, on colle un carnet de famille, avec des pages vierges où il faut remplir avec des enfants. Voilà, c'est une définition de la famille, n'est-ce pas? Institutionnelle, étatique en tout cas. Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'une catégorie de pensée et l'intérêt pour nous, sociologues, de regarder un peu, notamment celle-ci? Des questions là-dessus ou des... Non? J'ai combien de temps, Michel? Parce que...
Parle jusqu'à 3h30 maximum.
D'accord.
Et ensuite, justement, tout le monde pourra poser des questions. D'accord. Une heure et quart d'exposé.
D'accord.
S'il le faut.
Non, je ne vais pas abuser.
On fait une petite pause et on discute notamment aussi sur les questions qui pourraient se poser de définition.
Merci.
Une petite réaction juste sur les universaux et les questions subjectives. Je pense qu'elles sont quand même aussi construites socialement. Je veux dire, quand un objet universel comme la Lune est parlé par Confucius ou un ingénieur de la NASA, il ne parle pas forcément de la même chose. Et donc, il y a dans tous les universaux aussi, on le sait, hein, en anthropologie. Je ne voyais pas trop l'idée que le social se situait entre le subjectif et l'universel. Et de même, dans les discours de la subjectivité, il n'y a pas de subjectivité en soi. Il y a toujours une construction sociale qui institue le sujet, etc. Je ne voyais pas très bien...
C'est parce que j'ai sans doute un peu... En fait, là, je résume le fameux chapitre introductif des formes élémentaires de la vie religieuse, où c'est Durkheim lui-même qui, contre les philosophes, dit... parce qu'il y avait à l'époque un débat sur les définitions, sont-elles subjectives ou universelles. Il lui dit, c'est ni l'un ni l'autre, en fait, c'est social. Ça ne surprendra personne quand on connaît Durkheim. Donc c'est cette synthèse-là, du point de vue durkheimien, que j'essayais de rendre compte. Une différence, quand même, entre la famille, le travail et la Lune, c'est, j'allais dire, que la Lune existe. Il y a un objet Lune, enfin, une matérialité à la Lune. Alors qu'essayer de trouver la famille ou le travail et ramener le moi, je pense que ça va être difficile. Même si tout notre vocabulaire, surtout en français, tend à substantialiser le travail. Hein, par exemple, on reprend le travail après un arrêt maladie, on découpe le travail, on le délocalise, on le perd... On le refile. Tout ça donne l'impression, dans l'imaginaire, qu'il s'agit bien d'une chose, presque voilà, d'un gâteau ou d'un truc qu'on pourrait diviser, malaxer, étirer, réduire. Hein. Toutes ces expressions renvoient à une substance qui, en réalité, n'existe pas. Pour paraphraser Wittgenstein, là, on est vraiment dans le cas, il y a un substantif sans substance. Le travail, c'est un substantif au sens grammatical, derrière lequel il n'y a aucune substance. Il n'y a qu'une convention sociale sur ce que ça désigne. Voilà. Mais je suis d'accord qu'il y a autant de définitions de la Lune qu'il y a peut-être de poètes et d'astronomes, même s'il y a une dimension substantielle. La question, c'est comment est-ce qu'on peut s'entendre socialement, à minima, sur ce que c'est qu'une famille, le travail, un étudiant, l'université. Bien sûr qu'il y a des variations subjectives liées à des trajectoires de vie, mais on s'entend quand même. On s'entend suffisamment pour que la part subjective ne soit pas le tout. Voilà. C'est ça l'idée de Durkheim, en allant vite, peut-être trop vite. Alors juste peut-être un petit mot de méthodologie. Donc je suis partie vous avez compris, enquêter en disant, en fait, qu'est-ce qu'on appelle travail dans notre société ? C'est-à-dire, quels sont les usages sociaux du mot ? Quel usage fait-on de ce mot travail ? Pour ça, je suis allée voir dans trois champs principaux de la société. Le champ extrêmement large des usages ordinaires. Et pour ça, j'ai utilisé un outil magnifique qui est très facile d'ailleurs d'accès, hein, que sont les dictionnaires, puisque précisément un dictionnaire a pour vocation de rendre compte des usages sociaux des mots. Donc c'est quand même très pratique. Donc je suis allée voir des dictionnaires depuis l'ancien français jusqu'à aujourd'hui, toutes les notices, travail, travailler, travailleurs. Hein. Mais je suis allée voir aussi les usages disciplinaires du mot travail, c'est-à-dire comment la philosophie, l'économie, les sciences physiques, la psychanalyse, etc., ont, elles aussi, beaucoup plus tardivement, utilisé le mot travail. Pour ça, je suis allée voir les fameuses histoires des idées qui ont été rédigées et qui ont fait ce travail de recension, hein, extrêmement précis. Et puis, je suis allée voir aussi quels usages institutionnels étaient faits du mot travail, c'est-à-dire comment, notamment le droit et les usages étatiques du mot, hein, travail, quand est-ce qu'ils sont apparus et qu'est-ce qu'ils signifient dans ces usages-là. Donc, trois champs principaux, hein, ordinaire, disciplinaire et institutionnel. On va voir des réponses différentes selon les champs. Des questions sur la méthode ? Donc, on est plutôt, hein, sur un travail de corpus, hein. Alors, après avoir regardé toutes ces notices, je vous donne les résultats. Il apparaît que dans les usages ordinaires, donc quand on regarde les dictionnaires, le mot travail commence à être utilisé au XIe siècle, avec cette signification très proche donc, de celle que je citais de l'étymologie trans, hein, qui est la peine que l'on se donne pour faire quelque chose. Ça, ce qui est important, je trouve, dans cette expression, qui revient sans cesse jusque dans les dictionnaires contemporains, hein, ça veut dire que le travail, c'est pas faire quelque chose. C'est la peine que ça demande. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Notamment, ce n'est pas visible, cette peine. Donc, ce n'est pas l'action, c'est plutôt l'ombre de l'action, la peine que demande cette action. Dont on verra plus tard que les scientifiques, notamment les ergonomes, appellent l'activité. Donc, si vous voulez bien, on va convenir, c'est conventionnel, que cette peine que l'on se donne pour faire quelque chose, le fait d'y mettre du sien, le fait, cet effort invisible et pourtant déterminant de cette action, c'est l'activité. Et cette signification, cet usage social du mot travail va perdurer pendant 10 siècles, presque, je dirais, sans grande modification. La modification principale qui intervient, c'est qu'il y a de moins en moins de peine et de plus en plus, on pourrait dire, d'efficacité, notamment à l'époque contemporaine. Et puis surgit un autre usage du mot travail par métonymie à partir du 14e, mais qui s'impose surtout au 16e, qui est le résultat de cette action, de cette activité, hein, donc l'ouvrage, la chose faite, mais aussi la tâche. Donc là, on va dire, on va diviser le travail. Vous voyez, là, ça, on divise les tâches. Et puis, il y a aussi l'idée de manière de faire. Donc, on va dire, bah, c'est du beau travail, ou j'aime bien le travail de cet artiste. Vous voyez, là, on ne parle pas du processus, on parle plutôt du résultat. Et puis aussi, à l'époque moderne, apparaît un troisième usage du mot travail qui va se référer plutôt à l'idée de gagne-pain, de ce que l'on fait pour sa subsistance, qui, beaucoup plus tardivement, après la Révolution, va devenir en fait l'emploi, au point où même le travail, dire travail pour dire emploi, devient très très fort, hein, au point où aujourd'hui on dit « je cherche du travail ». T'es sûr que tu ne cherches pas un emploi plutôt ? Pas tout à fait pareil. Et en fait, on va le voir, donc, ça c'est dans les usages ordinaires. Donc dans les dictionnaires français, hein, vous trouvez une polysémie extraordinaire du mot travail, 88 synonymes, mais on peut les regrouper dans ces trois grands paquets, si vous voulez, de signification, hein, l'activité, donc faire quelque chose, ou la peine que ça demande de faire, plus exactement, la production, la tâche, le travail réalisé, et puis l'emploi. Le rapport social d'emploi. Vous conviendrez avec moi que c'est des choses assez différentes, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de travail domestique, c'est bien parce qu'on se donne la peine de passer l'aspirateur, que ça peut être, ça produit de la propreté, mais on est bien d'accord que ça n'est pas un emploi. Sauf quand il est sous-traité à quelqu'un qui, effectivement, se fait employer. Donc, on voit déjà les jeux, et même on pourrait dire les jeux de mots qu'il y a sur les trois grandes significations vernaculaires du mot travail. Quand on regarde dans le champ des idées, dans le champ des différentes disciplines, ce qui est très frappant, c'est que les disciplines très anciennes, comme la philosophie et l'histoire, ne mentionnent pas le mot travail, en tout cas pas de manière significative. Et ça n'est effectivement qu'en philosophie avec Hegel que le travail devient un concept philosophique, dont Hegel va donner une définition d'ailleurs qui ne sera pas nécessairement celle qui va s'imposer plus tard, puisque justement une philosophe comme Hannah Arendt va donner une définition très très différente du travail. Mais surtout, donc, ce qui est important, c'est qu'on voit apparaître que le mot travail, à partir de la fin du XVIIe, mais surtout au XVIIIe, XIXe, puis XXe siècle, va devenir un mot central dans les disciplines dès leur constitution. Les sciences physiques utilisent le mot travail, c'est un concept clé de la mécanique. Puis l'économie, notamment avec Adam Smith, va employer le mot travail, qui vont prendre le mot travail qui existe dans le champ ordinaire et le mettre au cœur de leur théorie économique. Jusqu'à aujourd'hui, le travail est un concept économique absolument inévitable, central. Mais aussi la psychanalyse. À la fin 19e, Freud va parler de travail psychique, travail de deuil, travail d'élaboration, travail de la cure, travail du rêve, évidemment. Donc là, on a encore une fois, on use du mot travail dans le champ disciplinaire de la psychanalyse avec une définition très particulière. Et puis évidemment, dans les sciences sociales, donc sociologie, anthropologie, on va voir arriver, et les autres psychologies que la psychanalyse, le mot travail va devenir absolument central. Donc on a un usage disciplinaire très intense, on pourrait dire, du mot travail, mais comme vous l'entendez, avec à chaque fois une convention qui définit ce mot travail dans un champ théorique avec une définition différente. Le travail de la psychanalyse n'a rien à voir avec le travail des économistes. Le travail de la science physique n'a pas grand-chose à voir avec le travail des sociologues. Encore plus compliqué, au sein même d'une discipline, parfois on trouve des conventions différentes, comme je l'ai dit par exemple entre Hegel et Hannah Arendt. Mais vous prenez dans la sociologie du travail, je sais que j'ai des confrères et des consoeurs en sociologie du travail ici, je ne suis pas du tout sûre que nous nous entendions sur ce que nous mettons derrière travail. Certains sont plutôt des sociologues des professions, d'autres de l'emploi, d'autres de l'activité, d'autres des organisations. Je ne suis pas sûre que nous parlions tous du même travail, si je puis dire. Pire encore, on peut avoir des conventions de langage, enfin des usages du mot travail, qui diffèrent au sein même d'une œuvre. C'est le cas de façon très, très exemplaire, pourrait-on dire, dans l'œuvre de Marx, qui, on le sait, tantôt parle du travail comme d'une activité. Donc, et là, il est très élogieux. En gros, le travail, c'est l'activité, et l'activité, c'est la vie. Donc, on est très, très hegelien, si on peut dire, ici. Mais parfois, il parle du travail avec le même mot, work ou arbeit, pour parler du salariat. Et là, il dit qu'il faut supprimer le travail. Là aussi, je vais très vite, je résume. Mais souvent, on a dit Marx s'est contredit. Oui, parce qu'il prend le même mot, en fait, pour désigner parfois l'activité, parfois le salariat. Et d'ailleurs, la critique de salariat est faite au nom de l'activité, au nom de la vie que comporte la possibilité de l'activité. Chez Freud aussi, on a cette même hésitation. C'est-à-dire qu'avec le même mot, il désigne tantôt le travail psychique, tantôt le travail qu'il appelle professionnel. Mais on le retrouve aussi chez Friedman, en fait, on le retrouve assez souvent, même chez Nietzsche. Bon. Donc on a parfois, chez un même auteur, et peut-être vous pouvez fouiller dans mes œuvres, sans doute que c'est vrai aussi, sans doute les vôtres aussi, peut-être qu'on emploie le mot travail. Et c'est même pire, parfois chez nous, le travail, c'est un lieu, on va dire le monde du travail, ou les lieux de travail, ou pendant le travail, là, le travail devient un temps. Pendant le travail, les gens n'arrivent pas à travailler. Ah ben oui, mais là, on a deux sens du mot travail, on entend bien tout de suite. Alors, c'est une difficulté de métier aussi pour nous qu'on peut souligner, mais ce qui est très important de souligner, c'est que les usages donc disciplinaires du mot travail sont foisonnants, polysémiques, parfois comme ça donnant des occasions de malentendus assez importants. En fait, si on essaye de prendre un peu de recul, dans les usages scientifiques du mot, on retrouve quand même l'idée d'activité, notamment dans la physique, la psychanalyse, une certaine partie de la société du travail, ou l'emploi, comme c'est le cas des sciences économiques, qui, quand elles parlent de travail, parlent essentiellement d'emploi, ou une partie de la sociologie, notamment la sociologie du travail, qui en fait une sociologie de l'emploi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les confrères et consoeurs, sur les usages disciplinaires du mot? Donc, en fait, vous voyez, dans les usages ordinaires comme dans les usages disciplinaires, on a une très, très grande polysémie. Et en même temps, on peut essayer de l'ordonner en disant que ça peut se regrouper autour de l'idée d'activité, d'emploi et de production. Dans le champ institutionnel, les usages sont très, très différents. D'abord, ils sont très tardifs. Au XVIIe siècle, en France, on commence à parler de travail, notamment avec Colbert, avec une polysémie notoire, mais ça devient vraiment un mot important dans les institutions qu'après la Révolution, donc quand on a parlé de liberté du travail. Et on le voit apparaître non seulement dans les débats parlementaires, dans les mouvements sociaux du XIXe siècle, mais aussi on le voit apparaître dans le droit, hein, de façon très très nette, avec l'idée de droit, de liberté du travail, de droit au travail, puis de droit du travail, et même de devoir du travail, hein, qui est au frontispice de notre Constitution depuis la 4e République. Donc on a comme ça, le mot travail devient très très central dans nos institutions, dans l'organisation de l'État, dans les politiques publiques, et puis dans tout, on va dire, dans l'imaginaire hein, politique qui est le nôtre. Dans tous ces usages institutionnels du mot travail, en réalité, il s'agit de l'emploi. Le code du travail est un code du salariat. Le médecin du travail s'occupe des salariés. La CGT s'occupe des travailleurs salariés. Si vous voulez, prenez le mot travail dans toutes les institutions, en fait, le mot travail est très très proche du mot emploi. Ce qui n'efface pas les autres usages du mot travail que nous avons dans notre vie ordinaire. Mais il y a cette coexistence, hein. Vous voyez, dans la vie ordinaire et scientifique, une forme très très extensive du travail, presque tout est travail puisque c'est l'action. Et dans le champ institutionnel, au contraire, quelque chose de beaucoup plus restreint, qui est l'emploi. Vous êtes toujours avec moi ? Ça va ? Vous n'hésitez pas à m'interrompre, oui ?
Une question sur le début de la période. Qu'est-ce que ça indique, sur les usages courants ? Le fait que ça commence au XIe siècle, ça signifie quoi ? C'est lié aux sources ? C'est lié à l'usage du terme ?
C'est lié à l'usage du français, surtout, un passage l'institutionnalisation du français progressive, moins de latin, plus de français, moins de langues régionales, c'est surtout l'apparition du français. Ce qu'on appelle l'ancien français, en fait.
Il y a le phénomène qui était pointé sous quelle autre forme ?
En latin, on parlait d'ergon et de ponos, donc il y avait deux termes, en fait. Alors, j'ai pas eu le temps de détailler ça, mais... Il y a tout un problème, évidemment, de traduction des mots. Et je pense en particulier à la Bible, à qui on fait dire un tas de choses sur le travail qu'elle n'a pas pu dire, puisque la catégorie de pensée n'existait pas, évidemment, à l'époque. En tout cas, pas au sens contemporain. Donc, la Bible ne parle pas de travail. La Bible ne dit rien sur le travail. Elle dit beaucoup de choses sur les métiers, sur l'action, sur la dépendance économique, sur la production, sur la subsistance. Mais sur le travail, rien. Qu'il y ait une traduction postérieure de ces mots-là en travail, hein, oui, c'est ce que je montre dans mon livre, mais vous ne trouverez évidemment rien sur le travail. De la même manière qu'on dit souvent, dans l'Antiquité, le travail était dévalorisé. Il était aussi peu valorisé ou dévalorisé que les smartphones, si vous voulez. Ce n'était pas possible de parler de travail dans l'Antiquité. Donc il ne peut pas y avoir de valorisation ou dévalorisation. Si on regarde... L'activité, est-ce que l'activité et l'action étaient valorisées dans l'Antiquité, en supposant que cette période soit homogène, ce qui n'est pas le cas évidemment. Mais enfin, avec les traces archéologiques que nous avons, on sait par exemple que l'activité est plutôt valorisée. Les dieux et les déesses font des choses. Voilà. Donc si les dieux et les déesses font des choses dessinées sur les vases, c'est que c'est quand même pas si dévalorisé que ça, c'est pas si honteux. De la même manière que la production pour la subsistance, j'allais dire évidemment, était valorisée. Ce qui pouvait être dévalorisé, c'est les rapports de domination sociale. Ce dont Aristote se fait d'ailleurs le... voilà. On a souvent réduit la conception du travail dans l'Antiquité à ce que Aristote n'en a pas dit, puisqu'Aristote n'a pas parlé de travail, mais enfin à ce que disait Aristote de la question de la dépendance économique. Mais vous voyez bien que si on ouvre le mot et qu'on regarde, on ne trouve pas travail, et ce que dit Aristote ne résume pas une période aussi grande que l'Antiquité et aussi vaste que l'Antiquité, hein, aussi vaste géographiquement. Donc il faut être assez prudent, je pense, au moment de faire ces généralités. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais.
Désolé,
Mais non, alors, non, mais c'est intéressant parce qu'il y a des mots, voilà, ergon, pardon, c'était des questions de traduction, donc ergon et ponos, on avait deux mots, aussi en grec, mais en latin, pour évoquer deux choses différentes, d'ailleurs, qu'on pourrait rapidement ramener à l'activité et l'œuvre, enfin la chose faite, hein, voilà. Et il y avait d'autres mots pour parler des rapports d'emploi, qui n'étaient pas non plus une expression antique, mais des rapports d'esclavage ou le rapport commercial avec ceux qui vendaient le produit de leur travail et pas leur travail, etc. Donc il y avait plein d'autres mots pour ça. Voilà, donc aussi il faut éviter les anachronismes, hein, parce que c'est tellement tentant de projeter nos mots sur le passé, mais quand ils n'existaient pas à l'époque, c'est juste, en fait, on risque de se tromper et de faire des anachronismes, tout simplement. Ce que font, étonnamment, ce que font pas mal les historiens. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'historiens qui vous parlent du travail, le travail dans l'Antiquité, le travail au Moyen-Âge, le travail préhistorique, bon, je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu encombrant, quoi, parce que c'est des historiens, ils savent bien qu'on ne peut pas faire ça, mais bon. Voilà. Donc, en résumé, vous avez compris, dans les usages ordinaires et scientifiques, il y a au moins trois significations. Trois significations, ça veut dire sept possibilités. Je ne sais pas si je vous dis, moi j'aime mon travail. Je suis en train de vous dire, j'aime bien l'activité que requiert ma tâche. Ou est-ce que je vous dis, j'aime bien ce que je produis, je sais pas, je trouve ça beau, utile. Ou est-ce que je vous dis, j'aime bien mes conditions d'emploi. Ou est-ce que je vous dis, j'aime bien l'activité, mes conditions d'emploi. Est-ce que, voyez, on peut combiner comme ça. Vous voyez l'imprécision que ça peut receler. Ça veut dire aussi que, si on s'arrête deux minutes sur la question des valeurs, qui n'est pas l'essentiel de ma recherche, hein, moi je passe moins sur la question des valeurs que sur la question des significations, ça veut dire aussi que quand on nous dit la valeur travail, eh bien moi je me demande de quoi on parle. Parce que, compte tenu de la polysémie du mot, et rien que si on s'arrête sur ces trois grandes significations, on voit bien qu'il y a beaucoup de valeurs en jeu là-dedans. Pour aller vite, hein, dans l'activité, si on s'adosse aux théories de l'activité, on sait que dans l'activité, c'est-à-dire dans cet effort que nous faisons pour arriver à faire des choses, à écouter quelqu'un parler à 3 heures de l'après-midi dans un amphi, par exemple, cet effort invisible à l'œil nu, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'activité, c'est dans ce processus-là qu'on construit du sens et de la santé. Quand on est empêché d'activité, on tombe malade. Ça a été très bien démontré, notamment par la psychopathologie du travail ou la clinique du travail. On joue des questions de sens et de santé. Donc, c'est une grosse valeur, là, on pourrait dire, hein, parce que c'est des questions de vie ou de mort. Donc, une valeur intrinsèque à l'activité, si vous voulez, hein, qui fait que d'ailleurs, beaucoup d'entre nous faisons des choses sans être rémunérés. Pour le plaisir de déployer une activité et peut-être même pour notre santé. Le travail vu comme production comporte comme valeur tout ce que nous produisons matériellement dans le monde, comme produits, mais aussi services, idées, œuvres d'art. Vous voyez bien que cette dimension-là comporte aujourd'hui une valeur absolument centrale qui est celle de la subsistance à l'échelle planétaire, hein, dans le contexte écologique dans lequel nous sommes. Se re-questionner sur la valeur des productions qui sortent quotidiennement. Et puis, la dernière dimension, l'emploi. L'emploi comporte aussi de nombreuses valeurs. L'emploi, hein, juridiquement, c'est un contrat de subordination donc, qui pose la question des rapports sociaux très, très frontalement. Mais comme je le disais, puisque la sécurité sociale en France est adossée au salariat, elle soulève aussi la question de la valeur de la solidarité. Beaucoup de syndicats aujourd'hui défendent le travail aussi pour les institutions de solidarité qui y sont adossées. Alors voilà, quand moi, on me parle de la valeur travail, ce qui est très très courant, hein, si vous écoutez un peu les discours des campagnes présidentielles, vous allez en avoir beaucoup de la valeur travail. J'espère qu'après cet amphi, vous pourrez questionner en fait, ces discours. Hein. Il n'y a pas une valeur dans le travail. Ce que nous appelons travail est gorgé de valeurs très différentes, très hétérogènes et d'ailleurs souvent en conflit. Donc personnellement, moi, je ne sais pas ce que c'est que la valeur travail. Mais en revanche, effectivement, le mot charrie des valeurs extrêmement importantes. Vous êtes tous d'accord avec ça? Je peux continuer ou est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais passer à la seconde partie de la... On va quitter la partie historique, on va se demander maintenant, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle travail? Pas de questions? Pas de remarques? Alors effectivement, qu'en est-il aujourd'hui de ce que nous appelons travail? Est-ce que ces trois significations vont ensemble? D'après les dictionnaires, en effet, on voit que dans la période d'après-guerre, qu'on pourrait qualifier de fordiste, en gros entre les années 50 et 80, 90, souvent les trois dimensions sont associées. On disait travail pour une activité rémunérée qui demande de la peine et qui produit des choses utiles pour la société. Qu'on soit agriculteur, ouvrier chez Renault, employé de la Sécu ou technicien dans le nucléaire. J'ai un emploi dont je peux vivre, qui produit des choses utiles à la société, et dans le cadre de cet emploi, je me donne la peine de faire des choses. Or, l'hypothèse que j'aimerais vous présenter et discuter avec vous, c'est qu'aujourd'hui, ces trois grandes dimensions sont de moins en moins observables ensemble. Tout d'abord, on peut entendre, et je suis sûre que les collègues sociologues du travail l'entendent aussi quand on fait des terrains, quoi. On rencontre de plus en plus de gens salariés, donc qui ont un emploi, qui sont classifiés comme travailleurs et travailleuses, qui sont rémunérés, dire « de toute façon, ce que je fais, ça ne sert à rien ». Ou pire, « je maltraite mes clients ou mes usagers ». Ou pire, encore une fois, dans le cadre de l'anthropocène ou du capitalocène, on pourra en discuter si les mots sont importants, je détruis la planète, quoi. C'est-à-dire que plus je travaille, plus je détruis. Je vais vite là aussi, mais on a beaucoup de salariés qui ont un doute sur, en fait, la dimension productive de leur emploi. Notamment, encore une fois, dans le contexte écologique qui est le nôtre. Alors, est-ce qu'on travaille quand on a le sentiment de produire des choses inutiles ou voire même des choses destructives? Est-ce qu'on peut encore dire que c'est du travail? On voit là que activité, production et emploi sont dissociés. On peut avoir un emploi qui est jugé par celles et ceux qui l'occupent, hein, comme destructeur. Ça peut être jugé par autrui aussi, hein, quand les youtubeurs disent « les fonctionnaires ne travaillent pas », là il y a un jugement, je pense, d'utilité, hein, et vous savez à quel point c'est facile de juger les autres professions en disant ouais, « non mais eux ils ne travaillent pas ». Quand on dit ça, on est en train de dire « eux ils ne produisent rien d'utile pour la société ». Mais on le dit, ils ne travaillent pas. Pourtant ils peuvent être employés, salariés, rémunérés, éventuellement gagner beaucoup d'argent. Donc, on voit bien là qu'il y a une première tension, hein, au sein même de la définition du travail, de la catégorie de pensée travail, où on pourrait avoir des gens qui ont un emploi rémunéré, qui font des choses toute la journée, et pourtant, qui disent ne pas produire d'utilité, de choses utiles. À l'inverse, vraiment, exactement à l'inverse, vous avez un continent de pratiques sociales qui demandent de la peine, beaucoup de peine même parfois, qui sont plus qu'utiles, elles sont vitales, et qui sont non classés comme du travail, qui sont hors emploi, hors rémunération, hors reconnaissance de ces pratiques comme travail. Évidemment, on pense ici aux tâches domestiques, hein, et d'ailleurs les féministes dès les années 70 ont revendiqué d'appeler ces tâches domestiques du travail domestique. On pourrait dire qu'elles ont gagné sémantiquement, c'est-à-dire on parle aujourd'hui dans certains milieux sociaux du travail domestique, mais ça n'est pas encore une reconnaissance institutionnelle. Ça serait une révolution que ce le soit, hein. Donc tout ce qui est tâches de production, reproduction, tâches domestiques, de care, hein, s'occuper évidemment des enfants, mais aussi des personnes plus âgées, des personnes plus dépendantes. On est tous indépendants, mais on est plus ou moins dépendants. Tout ça, le care, est-ce que c'est du travail? C'est une activité qui demande de la peine, qui est même assez subtile, qui demande des compétences, qui demande du temps, qui demande beaucoup de choses en fait. C'est une activité. Ça produit des utilités pour la subsistance. On pourrait même dire que c'est le plus utile qui soit au monde. Et pourtant, ça n'est pas reconnu comme travail par les institutions. Alors qu'on a, par ailleurs, rappelez-vous, hein, des emplois dans lesquels on produit des choses pas utiles. Donc là, on voit quand même que la notion d'emploi et d'utilité sont parfois très disjointes. Évidemment, c'est le cas dans le bénévolat et le volontariat. Hein, certains parlent de travail bénévole, c'est un oxymoron, comme travail domestique. Hein. C'est bizarre de parler de travail bénévole. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah bah oui, il y a des gens qui se donnent la peine de faire des soupes populaires le soir, dans le cadre des Restos du Cœur ou autre. Ça demande de la peine, c'est utile, socialement. Ah bah oui, mais c'est pas un emploi. Alors, est-ce que c'est du travail? Je ne sais pas. On le voit aussi avec l'autoproduction. Je trouve que ça, c'est une question intéressante. Hein, les nouveaux mouvements sociaux, ceux qui émergent là, depuis les années 2000, de nombreux mouvements sociaux contestent les institutions du travail en faisant la promotion, pourrait-on dire, de l'autoproduction. Que ce soit dans une visée anarchiste, libertaire, voire libérale, ou plutôt des communs ou communistes. Hein, cette idée que pour s'échapper des institutions du travail, on va aller faire soi-même son potager, réparer son ordinateur, voilà. Toute cette autoproduction est-elle du travail? Ça demande de la peine hein, de faire son jardin. C'est utile, vital, mais ce n'est pas un emploi. Pourtant, c'est un emploi de soi par soi. Mais ce n'est pas reconnu comme un travail par les institutions. Et voyez l'enjeu, si jamais nos institutions reconnaissaient l'autoproduction comme du travail et le faisaient rentrer dans les institutions du travail, est-ce que ça changerait? C'est aussi révolutionnaire que de reconnaître que, par exemple, le travail, les tâches domestiques sont du travail. Et puis, dernier point, qui devient aussi une question, à mon avis, importante, c'est celle de l'activité animale, et même plus généralement des vivants. Voilà, est-ce qu'une vache laitière travaille? Alors, j'ai une collègue, Jocelyne Porcher, qui, une grille d'analyse qu'elle emprunte à la psychodynamique du travail, qui est très sensible justement à la question de cette peine que l'on se donne pour faire les choses, confirme hein, que les animaux, que ce soit le chien d'aveugle, la vache qui va toute seule au pré, l'éléphant forestier qui transporte des troncs d'arbres, ont une activité. Ce n'est pas la même que celle des humains, mais il y a quelque chose que l'on pourrait appeler une peine qu'ils se donnent pour faire quelque chose. Il y a de l'apprentissage, Jocelyne Porcher parle même de subjectivité. S'il y a de l'activité productive employée par les humains, alors c'est du travail. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucun code du travail animal. Vous voyez, quand on va au bout du raisonnement, si on dit que les œufs sont produits par un travail animal, produits par les poules, alors, puisque nous employons ces poules pour faire des œufs, logiquement, il faudra les faire rentrer dans les institutions du travail. Et donc, par exemple, envisager un code du travail animal, ou un code du travail des forêts, ou un code du travail, je ne sais pas. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Un code du travail, évidemment, qui certes donnerait peut-être des droits à ces vivants qui ne peuvent pas se défendre dans les tribunaux, mais qui donnerait surtout des devoirs aux employeurs, comme ça a été le cas du code du travail humain, hein, qui a vraiment été important le jour où on a créé la figure de l'employeur à qui étaient attribuées des responsabilités, notamment dans la limitation de l'exploitation humaine. On pourrait imaginer, si on prend au sérieux que c'est du travail, la photosynthèse, le travail animal, etc., un code de l'emploi des vivants. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout. Comprenez ce que j'essaye de démontrer là? C'est-à-dire que l'activité, production utile, emploi, rémunération, tout ça est vraiment délité dans tous les exemples que je vous donne. Mais il y a aussi tous les cas où on ne s'entend pas au sein même du salariat sur ce qui est du travail ou pas. Alors ça a été beaucoup étudié par la socio du travail. Je vais vous donner des exemples. Est-ce que, par exemple, le temps de s'habiller, de se déshabiller pour mettre un uniforme ou pour mettre des vêtements de protection, est-ce que c'est du temps de travail? Ça, c'est un objet de négociation permanent, à savoir si c'est du travail ou pas. Est-ce que les temps de déplacement pour l'emploi sont des temps de travail? Si, par exemple, je vais d'un client à un autre. Vous savez, par exemple, beaucoup de femmes de ménage aujourd'hui sont salariées par des entreprises qui les envoient là, chez différents clients. Est-ce que le temps de travail entre deux clients est du travail? Vous voyez bien l'enjeu de cette négociation, parce que si on dit que c'est du travail, ça va être payé comme travail. Est-ce que parler de ce qu'on fait au travail, vous voyez que le travail est même un lieu, c'est du travail. L'enjeu est majeur aussi. Est-ce que ce que l'employeur appelle les temps morts, qui sont les temps de discussion, les machines à café, et toi tu fais comment, avec ton master, et ton machin, tous ces temps-là, c'est du travail ou pas? Quand on échange des tuyaux entre professionnels, quand on échange des informations de façon informelle auprès de la machine à café, à la cantine, est-ce qu'on bosse? Si on dit que ce n'est pas du travail, ben ce n'est pas payé. Donc tout ça, ça se fait au café après le temps de travail. Si on dit que c'est du travail, alors on le prend au sérieux. Et on garde des temps d'échange, de pratique, à propos de ce que l'on fait dans l'emploi. Et ça, c'est des questions très très pratiques. Par exemple, si vous êtes formateur et que vous proposez à une entreprise de faire des échanges de pratique, justement, première question qui va se poser, c'est est-ce que c'est pris sur le temps de travail ou pas? Donc la question est littérale, c'est est-ce que c'est du travail de faire ça? Vous voyez, ça a tout de suite des incidences extrêmement pratiques. Donc, on pourrait dire qu'au sein même de l'emploi, il n'y a pas d'accord systématique sur ce qui est travail ou pas. C'est une négociation, qui est toute politique, évidemment, comme tout le reste d'ailleurs. Dont l'enjeu, là, évidemment, est la question de la rémunération. Donc, ça tire toujours du même côté. L'employeur a intérêt à ne pas dire que c'est du travail et les employés à le faire reconnaître comme travail. Et au milieu, il y a toute la négociation, hein, pour savoir ce qu'on compte et ce qui compte comme travail, non seulement symboliquement, mais donc aussi pour le faire rentrer dans le contrat de travail. Autre doute, autre trouble dans la catégorie de pensée de travail aujourd'hui, c'est le rapport entre l'activité productive dans l'emploi et les revenus. Tout à l'heure, quelqu'un a tout de suite dit « Moi, je ne travaille pas parce que je ne suis pas payé pour être là, et ceux qui sont payés pour être là, ils travaillent. » Très bien. On voit bien que c'est un usage ordinaire du mot « travail » comme « emploi rémunéré ». Or, nous sommes dans une société qui rémunère aussi des femmes et des hommes qui n'ont pas aucune action. Enfin, ils sont rémunérés indépendamment de l'action qu'ils ont. On pourrait même dire, depuis 30 ans que la croissance de la rémunération du capital est supérieure à celle du travail, que les revenus vont d'abord aujourd'hui, j'allais dire, à ceux qui font vraiment rien, qui sont les rentiers, juste le capital. Le fait d'avoir du capital rapporte beaucoup plus d'argent que d'avoir une activité, de se donner la peine de faire quelque chose de productif. Donc, comment penser la rémunération de l'inactivité non productive ? Qui est aujourd'hui très forte, en maintenant l'idée que le travail, c'est ce qui nous permet d'assurer notre gagne-pain. Aujourd'hui, le gagne-pain est mieux assuré par l'immobilier, avoir des actions, etc. Alors, on voit bien que le revenu du capital interroge un peu cette évidence que, bah oui, le travail, c'est ce qui permet de gagner sa vie, ou qu'il y a un lien entre travail et rémunération. De la même manière que nous sommes dans un pays, et même un continent, dans lequel il y a beaucoup de redistribution, est-ce qu'il y a peut-être des boursiers ici qui bénéficient donc de la redistribution? Est-ce que parce que vous êtes boursier, vous travaillez plus que votre voisin à droite qui n'est pas boursier dans cet amphi? Vous voyez bien que la redistribution est aussi... fabrique des revenus indépendamment du fait de se donner la peine de faire quelque chose d'utile dans la société. Et puis vous avez aussi, on le sait, il y en a des cas de femmes ou d'hommes qui sont employés, donc il y a un contrat de travail, une bonne rémunération, etc., mais ils sont employés à rien faire. Soit qu'il s'agit d'emplois fictifs, ça aussi on va en entendre parler avec la campagne présidentielle, soit que ces personnes sont placardisées. Vous connaissez cette expression, placardiser, ça a été pas mal pratiqué à une époque. Ça consistait à dénuer quelqu'un totalement de toute tâche, hein, et de laisser cette personne isolée dans un coin, dans un placard de l'entreprise ou de l'administration publique, pour qu'elle démissionne par elle-même, pour ne pas avoir à payer les indemnités qui lui sont dues. Donc c'est une technique en fait de licenciement masqué qui passe par... voilà, pour sauver leur peau, parce qu'en général, ces gens-là font une dépression assez carabinée, pour sauver leur peau, ils démissionnent et donc ne touchent pas. Voilà. Ça a été pratiqué parfois à grande échelle dans des entreprises que vous connaissez si vous lisez les journaux. Alors, est-ce que quelqu'un de placardisé travaille? Ben, vu de l'extérieur, oui, hein, ils ont un emploi, ils comptaient comme travailleurs, ils touchent un salaire et tout. Mais de son point de vue subjectif, pas du tout. Et c'est d'ailleurs un drame. Parce que c'est une, voilà, c'est une immobilisation sans activité utile. Donc on voit bien que la question des revenus et du travail, de ce qu'on appelle travail comme source de revenus, ça ne va pas de soi. Du fait de la rémunération très forte du capital, du fait de la redistribution, du fait qu'il existe des emplois sans activité productive. Je vous donne à chaque fois des exemples, hein, mais il y a derrière, dans chaque tiroir, il y a beaucoup de choses en fait. Et puis aussi, on sait que du fait de ce que moi j'appelle l'hypocrisie de la norme salariale, alors je m'en explique, nous sommes dans une société qui... Je vais juste revenir tout à l'heure. Quand je vous dis, et vous voulez faire quoi plus tard, quand vous serez plus grand? Quelle émotion ça vous fait? C'est agréable, désagréable, flippant? Pour qui c'est plutôt angoissant, cette question? Qu'est-ce qu'il y a d'un peu angoissant dans cette question? C'est qu'en fait, il y a une norme derrière. La norme, c'est tu dois avoir un emploi. Or, on ne sait pas forcément quel emploi on veut avoir, puis on est quand même un peu conscient qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde dans cette société. C'est ça ce que j'appelle l'hypocrisie de la norme salariale, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons un discours permanent, institutionnel, inscrit même, je dirais, dans chaque détail de la formation, des papiers qu'on doit remplir, etc., qui est « nous devons avoir un emploi pour vivre ». Pour vivre au sens « pour avoir un revenu », mais aussi pour avoir une identité sociale, pour avoir une existence, on doit avoir un emploi. Or, il n'échappe à personne que depuis 40, 50 ans, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. C'est ça, ce que j'appelle l'hypocrisie de la norme salariale, c'est-à-dire que c'est une norme qui ne peut pas se réaliser. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit qu'au seuil de l'emploi, de nombreux citoyens et citoyennes vont montrer leurs compétences bénévolement pour se faire embaucher. Par exemple, le nombre de stagiaires a été multiplié par 3 en 15 ans, si je me souviens bien. De plus en plus de jeunes font des stages. Et vous comme moi, vous parce que vous êtes peut-être stagiaire et moi parce que je suis enseignante, on sait très bien à quel point il faut se méfier des faux stages qui sont en fait des stages qui sont des emplois non rémunérés, c'est-à-dire où le stagiaire occupe une place, hein, une vraie fonction en fait, pas quelque chose de provisoire, et en tout cas ce ne sont pas des stages juste avec un bon tutorat et où il n'y a que de l'apprentissage, non, non. Beaucoup de stages aujourd'hui sont des emplois déguisés, c'est-à-dire que les stagiaires occupent l'emploi qu'ils aimeraient avoir. Un effet de substitution, hein, comme dit Dominique Lehmann. Mais bon, alors on le connaît bien pour les stages, mais il y a aussi tout ce que aux États-Unis on appelle le hope labor, vous connaissez peut-être. C'est comme le stage, mais ça peut prendre d'autres formes. Tout ce que nous faisons bénévolement pour nous faire embaucher, comme par exemple sur Internet, celles et ceux qui, par exemple, des designers, des dessinateurs, des vidéastes, des journalistes, etc., produisent sans être rémunérés. Font par exemple des articles comme ça, bénévolement, pour se faire remarquer des employeurs qui vont dire « Oh là là, lui il est bon, là, bah, tiens, il fait des très bonnes critiques de cinéma, on pourrait l'embaucher pour... » Mais avant de se faire embaucher, combien d'articles est-ce que ce journaliste aura écrit bénévolement? On voit là donc qu'il y a tout un stock, une armée on pourrait dire, de femmes et d'hommes, éventuellement d'ailleurs très qualifiés, qui acceptent volontairement, bénévolement, de produire des choses utiles en se donnant la peine de faire quelque chose, mais hors emploi, dans l'espoir d'en obtenir un. Donc on a comme ça de plus en plus, du fait de cette tension hein, sur le marché de l'emploi, de plus en plus d'actions profitables, d'activités où on se donne la peine pour faire quelque chose qui est profitable pour les entreprises et qui est éventuellement utile pour la société, mais qui est hors emploi. Alors est-ce que c'est du travail ? Est-ce que l'architecte qui vous dit « Oh là là, j'ai passé 4 nuits blanches à répondre à un appel d'offres pour essayer de décrocher un gros contrat », il dit « J'ai plein de travail », est-ce que c'est du travail ? C'est pas rémunéré, hein ? Bon. Enfin, si, en l'occurrence, parfois, sur les gros contrats d'architecture, ça l'est. Il y a beaucoup de cas où ça ne l'est pas. Alors évidemment, on peut se dire, est-ce que le travail du consommateur, c'est du travail ? Mon fameux point de départ, hein, là aussi, action productive, profitable pour les firmes, mais évidemment qui n'est pas un emploi. Je finis, 3h30, sur les derniers points où on se demande s'il y a effectivement du travail. C'est ce que j'appelle les nouveaux modèles productifs, qui sont les modèles productifs qui utilisent les technologies numériques ou biologiques. Alors, vous connaissez ça par cœur. Est-ce que vous et moi, quand on poste des photos de nos vacances sur Facebook, nous travaillons ? Nous, on n'a pas le sentiment de travailler. Mais ce qui est sûr, c'est que ce site Internet gagne beaucoup d'argent avec nos photos. C'est profitable. Alors, au sein même de la sociologie du travail, il y a un gros débat de savoir si on doit l'appeler travail ou pas. Tout dépend, on va dire, de ce qu'on appelle travail. Mais vous êtes sans doute au courant, il y a tout un courant de la sociologie qui se développe autour de l'idée de digital labor, donc de cette idée que les nouveaux modèles économiques numériques fondés sur le gratuit, mais aussi sur ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire la captation dans la foule de données, de production, etc., pourraient être considérés et conceptualisés comme du travail. Mais on voit bien là que ça remet encore une fois en question la définition du mot travail. Très rapidement aussi, on se pose la question dans le champ de ce qu'on appelle le biocapitalisme, c'est-à-dire l'usage par des entreprises capitalistiques des propriétés du vivant, ce qu'on appelle la bioéconomie. Est-ce que quand vous donnez ou vendez un organe, vous travaillez ? Est-ce que si vous acceptez d'être un sujet sain pour des tests cliniques, vous savez, on prend... pour tester des médicaments ou des pommades ou quoi, on prend des sujets malades et des sujets sains et on leur administre par exemple des médicaments ou des vaccins et on voit ce qui se passe. C'est rémunéré. Est-ce du travail ? Ça n'a rien à voir avec le travail, avec le temps de travail, la pointeuse, etc. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est vous qui travaillez dans ce cas-là ou est-ce que ce sont vos cellules ? Est-ce que ce sont les propriétés du vivant qui sont mises au travail ? Voilà les questions un peu fondamentales qui sont posées par mes collègues, notamment une fois états-unienne aussi, sur le biocapitalisme qui vient mettre le bazar sur la catégorie de pensée travail. Et puis pour finir, on peut se demander si les fameux robots travaillent, puisqu'on n'arrête pas de nous dire que les robots nous piquent notre travail. Ça voudrait donc dire qu'ils travaillent. C'est au point d'ailleurs où il y a une commission de l'Union européenne qui dit si les robots travaillent, il faut qu'ils cotisent à la Sécu. C'est logique. Mais logique. Ou alors, il ne faut pas dire que les robots travaillent, on peut dire qu'ils fonctionnent peut-être. Mais, vous voyez, ça c'est quand même des questions qui, dans le langage courant, vient interpeller notre catégorie de pensée travail, où on voit que, pour vraiment finir, Michel, je promets que c'est la dernière, on voit qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup d'activités, de choses qui demandent de la peine à des femmes et à des hommes, et qui ne sont pas nécessairement qualifiés de travail par les institutions. Vous avez des gens qui sont en emploi, donc qualifiés de travailleurs, qui n'ont rien à faire, ou qui produisent des choses qu'eux-mêmes jugent nocives. Vous avez de la production utile qui est faite par des robots qui n'ont ni activité ni emploi, ou par des animaux qui ont une activité mais qui ne sont pas reconnus comme des travailleurs dans le code de l'emploi. Enfin bref, vous avez compris. Il me semble, c'est l'hypothèse que je viens vous présenter aujourd'hui et dont on va discuter, que nous assistons aujourd'hui à un éclatement des significations du travail, c'est-à-dire ce qui allait ensemble peut-être dans les années 50-80, aujourd'hui est dissocié, créant alors un trouble dans le travail, au sens, un trouble dans la catégorie de travail, de pensée de travail, où on ne s'entend plus en fait sur ce que l'on met dans ce mot. Et l'enjeu est majeur, puisque le travail, je vous le rappelle, est un mot clé de notre société et une institution clé. Or, derrière le trouble qu'il y a sur le mot, on pourrait dire le mot est troublé, c'est pas très grave. C'est pas une question d'être grave. Le problème, c'est que derrière, il y a des institutions du travail. Et j'ai essayé de le suggérer à chaque fois. Si on appelle quelque chose travail, alors la tentation est grande de rattacher cette pratique aux institutions du travail. C'est logique. Donc, comme on a vu que ça ne coïncidait que rarement, que fait-on ? Est-ce qu'on essaye de faire rentrer les pratiques actuelles dans le code du travail, j'allais dire un peu en forçant ? Ou est-ce qu'on transforme les institutions du travail ? D'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas les appeler autrement, peut-être ? Voilà les questions qui, du coup, sont un petit peu vertigineuses que posent tous ces cas pratiques, et qui interrogent, en fait, ce que nous faisons au monde, au sens matériel, social, mais aussi existentiel, puisque je vous le rappelle, l'activité comporte cette dimension extrêmement importante de construction du sens. Je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai trop parlé et surtout je suis intéressée de vous entendre réagir à tout ça.